Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, dans ce podcast de So Sweet Planet, je vous propose une rencontre avec Teresa Maffeis, qui est la fondatrice de l'ADN, l'Association pour la démocratie à Nice. Teresa est militante, même si je crois qu'elle n'aime pas trop ce mot, mais on va en reparler. Militante depuis de nombreuses années, elle lutte contre les discriminations et l'exclusion des sans-papiers. Elle lutte pour la scolarisation des enfants roms, pour les droits des femmes, entre autres. Et nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour parler d'un livre coécrit par Teresa Maffeis et la journaliste Aurélie Selvi. Et ce livre s'intitule « Les Sentinelles, chronique de la fraternité à Vintimille ». Et pour planter tout de suite le décor, si vous le voulez bien, Teresa, je vais lire le petit résumé qui est sur la quatrième de couverture du livre. Et ensuite, nous allons pouvoir nous dire bonjour. Vintimille, ville frontière italienne, supermarché des Azuréens en quête de cigarettes à prix cassé, s'illustre pour une autre spécialité, le transit de migrants. Fuyant l'horreur des zones de conflit ou la brutalité des dictatures, ce sont des milliers de jeunes hommes, femmes et enfants qui trouvent refuge dans cette cité balnéaire et ses montagnes environnantes. Pour leur venir en aide, de nombreux citoyens, connus ou inconnus, boulangers ou retraités, princesses locales ou agriculteurs, anarchistes ou curés, se mobilisent. Ils collectent des vêtements et de la nourriture, manifestent avec les réfugiés, dénoncent l'illégalité de pratiques policières et beaucoup doivent se défendre devant les tribunaux. Dans ce journal de bord, Teresa Maffeis, figure militante locale, et Aurélie Selvi, journaliste, souhaitent leur rendre hommage en racontant l'histoire de la fraternité que ces insurgés écrivent depuis 5 ans. Bonjour Teresa Maffeis.
Bonjour Anne.
Vous êtes dans le sud de la France et donc on va parler de ce livre surtout. Et pour commencer, si vous voulez bien nous expliquer comment il est né ce livre.
Alors ce livre, moi je suis donc à Nice, donc qui est l'endroit frontière entre Nice et Vintimille. Donc nous avons accueilli les migrants qui arrivaient de tous ces pays en guerre depuis quelque temps. Et auparavant, il n'y avait pas de fermeture de frontières, donc nous allions les rencontrer, leur offrir leur café, les aider un petit peu dans leur langue, à prendre le train, etc. Et donc j'étais là le jour de la fermeture de la frontière, où là tout a basculé. Donc depuis le jour de la frontière, en juin 2015, nous nous sommes mobilisés avec d'autres pour aller à Vintimille aider les Italiens, pour recevoir également les migrants qui réussissaient à passer la frontière et qui étaient un petit peu perdus dans Nice ou ailleurs, pour les aider aussi dans leur demande d'asile pour ceux qui le voulaient, et puis pour tout ce qui était de première nécessité. Et surtout, on a beaucoup aussi aidé les mineurs, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui partaient tout seuls. Je me souviens à la gare au début, quand ils étaient là, il y avait des gens, leur maman ou leur papa leur donne des cartes des Western Union, avec un code afin qu'ils ne se fassent pas dérober lorsqu'ils passent dans les pays. Et on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui venaient leur dire « Écoutez, donne-moi ta carte, je vais aller chercher l'argent » et qui partaient avec. Donc on était assez vigilants un petit peu parce que, vous savez, quand il y a de la misère ou du désespoir, il y a toujours des vautours auprès et on était un petit peu là et puis pour les réconforter et c'était indispensable. Donc depuis juin 2015, on n'a pas cessé, enfin je n'ai pas cessé mais je ne suis pas la seule. C'est pour ça que je dis militante, ça me met dans une autre catégorie, je me considère comme toutes les autres, humaine, point barre. Mais c'est vrai que, donc on est allé, on a mobilisé des gens, bon moi j'étais un petit peu plus disponible parce que c'est vrai que je suis plus coutumière puisque je fais des permanences aussi pour les sans-papiers depuis très longtemps, je m'occupe pas, comme vous le disiez, de l'exclusion, donc je suis plus coutumière de la rencontre avec l'autre. Et donc, on a depuis, donc ça fait plus de 5 ans, que pratiquement toutes les semaines ou tous les jours, lorsqu'il y avait des urgences, j'allais à Vintimille, soit pour aider les gens, soit pour faire des veilles à la frontière, puisqu'il y avait des arrestations illégales, soit pour apporter à manger, soit tout simplement pour donner des cours de français, soit tout simplement pour dire bonjour à tout le monde.
Et donc, par rapport à la question, comment est né ce livre ?
Alors, ce livre, justement, pardon, donc c'était pour vous situer un peu pourquoi on avait fait ça. Donc, ce livre est né, donc lorsque, alors, notre association est aussi une association qui pense que la culture est un très bon moyen, un très bon vecteur d'information, plus que les discours. On n'est pas vraiment des gens de discours, on ne fait pas beaucoup de communiqués, mais on a beaucoup pratiqué beaucoup de choses. On a fait du cinéma, on a fait des... Quand les Tunisiens étaient venus là, on a fait un film. Et donc, on s'est aperçu, donc on a fait une exposition photo qui retrace tout ce qu'il y a dans le livre, à peu près. Et donc, on l'a...
Les
5 ans. Enfin, moins la période Covid, puisqu'on n'a pas photographié, enfin bon, on n'avait pas tellement. Donc, on a fait cette expo photo, a tourné en France, en Belgique, en Suisse. Et alors, la première fois qu'elle a tourné, c'était à Nice. Et quand je voyais les gens me disaient, qui pleuraient, je dis, mais les gens n'étaient pas au courant. Alors, moi, je suis tout à fait étonnée de savoir, parce que bon, la presse en a beaucoup parlé, etc. Donc, les gens, en fin de compte, découvraient toutes ces phases-là. Bon, ils savaient un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, c'était approximatif. Et donc, les gens étaient très attentifs à ce qu'on disait. Donc, on l'a signalé un petit peu partout. Je me souviens d'une université, les étudiants de l'université de Belgique, à Bruxelles, avaient quelque chose d'intéressant. Ils avaient donc l'exposition photo. Ils avaient mis une grosse affiche avec des ronds, enfin une espèce de graphique. Et ils avaient appelé votre degré de connaissance de ce qui se passe en Italie, de la crise migratoire. Ils avaient appelé ça. Et les gens mettaient des pastilles. Et c'était entre 0 et 1. Donc, c'est pour ça que quand on s'est aperçu de ça, bon, les photos, c'est une image qui reste. Mais le livre, c'est quelque chose qui va rester. Le livre, c'est quelque chose qu'on peut lire, qu'on peut prêter, qu'on peut donner à quelqu'un, etc. et qui va faire beaucoup plus circuler que l'exposition photo. C'est pour ça, donc, on a fait ça.
Vous êtes sur le terrain et dans votre position, comme beaucoup d'autres, la réalité, c'est que vous ne pouvez rien faire en amont. Vous n'êtes pas en position de faire bouger les lignes politiques et tout ça. Et par contre, sur le terrain, vous vous retrouvez avec quasiment dans les bras des familles, des enfants, des mineurs, des gens en souffrance physique, en souffrance psychologique, en souffrance tout ça. Et il y a une question de se battre pour que soit respectée la dignité de ces vies humaines. C'est ça qui m'a intéressée dans votre approche.
Effectivement, enfin, quand on le regard des autres sur les migrants, les gens me disaient tout le temps, c'est bien ce que vous faites, etc. Mais tous ces gens-là ne sont jamais allés à Vintimille, alors que savoir que Nice, c'est à une demi-heure de Vintimille. Donc, c'est pas à l'autre bout de la France. Donc, ces gens-là n'y allaient pas. Et bon, et tu savais pas pourquoi. Quelquefois, les gens me disaient, je veux bien y aller, mais si tu viens avec moi. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une approche qui n'est pas aussi naturelle et simple que ça. C'est pour ça que dans le livre, ces histoires qui sont des histoires simples et diverses, je veux dire, où ces gens-là vont pouvoir se reconnaître. Parce que les gens ont l'impression que quand vous faites quelque chose, par exemple, quand on va sur les camps roms, les gens nous disent toujours la même chose. C'est bien ce que tu fais, mais nous, on ne peut pas. Mais personne ne veut dire pourquoi on ne peut pas. Personne ne me dit pourquoi ils ne peuvent pas. Mais après, si vous leur expliquez, mais c'est bien, etc., c'est pas suffisant. Je pense que quand les gens ne peuvent pas faire de la présence, quand les gens, pour des raisons, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que le fait que, bon déjà, je me souviens de l'impact des images, mais dans le livre, moi je le vois parce que beaucoup de gens nous appellent en nous disant, je vous remercie, on ne savait pas que tout ça était comme ça, on ne savait pas toutes ces histoires, on ne savait pas, il y a des histoires qui sont tristes, il y a aussi des belles histoires, etc. Et ce qu'on voit dans le livre, en fin de compte, c'est que du positif, il n'y a jamais eu de problème, parce que je veux dire, quand les gens vous disent n'y vont pas, ils ont tout peur des problèmes. Des problèmes que pourrait causer telle personne, etc., ce qui n'a jamais existé. Et ça, on n'a rien caché du tout, puisqu'on y a été, enfin, y était tout le temps. Aurélie aussi venait très souvent. Et c'était d'une convivialité extraordinaire entre tout le monde. Quoi. Il n'y avait plus de couleur de peau, il y avait juste le problème de la langue, c'est tout. Et c'est ça qu'on a voulu donner, c'est que les gens... Et c'est vrai que moi, j'ai été émue. Il y a des personnes qui nous disent merci, ou des personnes me disent, c'est comme un film sur la vie. Une dame, elle m'a dit ça. Donc, ça veut dire qu'elle ne connaissait pas la vie qui se passait là-bas. Et enfin, ce n'est pas un film. Mais c'est ça qu'on a voulu faire. Et on le voit, on le sent dans les retours qu'on a des personnes. On n'avait pas de prétention d'être écrivaine dernière. On voulait simplement dire, voilà, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne souffrent pas. Et il y a des rencontres entre toutes ces personnes. Et les rencontres ont été très magnifiques. Parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, effectivement. Mais on n'a pas pu tout mettre. Enfin, mais on pourrait faire un deuxième tome.
Mais je me suis demandé d'ailleurs pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits, parce qu'il y a des endroits dans les... J'ai des amis qui sont allés pour, en tant que bénévoles dans des camps dans Paris intramuros ou juste autour, et là il y a des problèmes de violence régulièrement, il y a des problèmes de gens qui pètent les plombs, qui se battent, qui... pas tout le temps, hein, mais il y en a. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits où c'est plus apaisé et où ça se passe mieux, et, selon vous?
La configuration à Vintimille, parce que dans le sud de l'Italie, il y a plus de problèmes, mais nous, on n'a pas relaté ce qui se passait dans le sud de l'Italie, puisque les camps, les grands camps sont dans le sud de l'Italie. Si vous voulez, Vintimille, c'est le lieu de, c'est la fin du voyage. C'est la fin du voyage, c'est la frontière. Donc, théoriquement, ils arrivaient pour passer. Et leur objectif, c'est de passer. Donc, l'église qui a, la Caritas qui a ouvert ses portes, ou même lorsqu'ils dormaient dans des campements, les campements n'étaient pas surchargés comme à Paris. Ça n'a pas de commune mesure. Il y a eu jusqu'à 1000 personnes qui dormaient ou dans la Caritas ou dehors, mais ça n'a rien en comparaison avec ce que les gens ont vécu à Paris ou dans d'autres villes. Et de plus, comme nous étions à la frontière, les migrants, soit aidés par des militants, soit aidés par des bénévoles, soit aidés par des familles, soit tout seuls, passaient la frontière. Si vous voulez, il y avait un camp de la Croix-Rouge qui accueillait ces migrants, et ce camp de la Croix-Rouge il accueillait beaucoup de monde, mais il n'était jamais plein parce que tout le monde partait. Vous voyez là, suite au Covid, il en restait 125 dedans, là il n'en reste plus 20, c'est que les gens ont réussi à passer, et des façons de passer, il y en a beaucoup. Ils ont tellement, si vous voulez, quand ils nous disaient qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, comme dans le livre, qu'ils étaient enfermés dans des pays libres, et eux, ils ont continué, il y a eu beaucoup de morts, il y a des gamins qui sont tombés des ponts, il y a des gens qui ont été brûlés. Donc, si vous voulez, c'est pas la même configuration, parce qu'ils passent. C'est-à-dire qu'il y a pas, quand vous êtes à Paris, vous pouvez pas aller ailleurs qu'à Paris ou que dans la France, tandis que là, ils passaient la frontière et après, ils s'éloignaient dans d'autres villes.
Oui, ils sont en transit, quoi. C'est une
voilà, ils sont en transit, c'est pas la même chose.
Vous expliquez dans l'avant-propos de ce livre que vous êtes vous-même fille de migrants italiens et que vous avez aussi vécu le rejet dans votre enfance. Et je me demandais à quel moment vous avez commencé à vous engager. Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic précis?
Alors, je ne pense pas que je me sois engagée parce que j'ai vécu le racisme en Italie, en France, quoi, pour mes parents. Moi, j'ai beaucoup souffert du racisme pour mes parents, pour le regard qu'avaient les gens sur les parents. Nous, à l'école, on n'avait pas les problèmes et moi, j'avais beaucoup de peine de voir les gens dénoncer mon père qui allait un peu travailler au noir pour nous nourrir, enfin, ma mère dont on se moquait. Parce que ça, c'est pour mes parents. Et sinon, moi, je n'ai pas à l'école, ça se passait bien. Puis, on avait des caractères assez forts, donc ça n'a pas été un problème. Mais c'est vrai que je ne supportais pas parce que, par exemple, les gens disaient à ma mère, tes filles, je vais les faire manger à la maison. Donc, on arrivait à la... Nous, on ne voulait plus y aller. Il y avait toute la vaisselle qui attendait, le ménage, on avait une tranche de jambon. Mais on n'osait pas trop le dire à ma mère, mais on n'avait que des choses comme ça qui étaient assez humiliantes. Enfin, on était une ville de province, et moi, je pensais que les villes de province seraient toutes pareilles. Donc, quand j'ai dû faire l'université, et la vie est bizarre, je voulais faire médecine, et en fin de compte, il y avait médecine à Orléans, donc j'ai choisi la seule discipline qu'il n'y avait pas, et c'était italien. Donc, je me suis retrouvée... Le hasard, mais il paraît qu'il n'y a pas de hasard, à Nanterre en 68. Donc, donc de là, c'est parti.
Vous étiez dans le bain, là.
Dans le bain total.
Et ça a pris.
Ben oui, ça a pris, parce qu'en plus, ça m'a formée, parce que moi, je suis arrivée à l'université, j'étais assez jeune, j'étais très impressionnée par tous ces gens qui avaient lu tous les analyses politiques, etc. Et donc, ça m'a beaucoup appris, et c'était aussi une réponse à mon désir d'être, pourquoi j'étais partie pour mes parents, c'était une réponse. Il m'a dit, on peut aussi faire des choses. 68 m'a montré ça. On peut, nous, quand on allait voir les ouvriers, qu'on discutait avec eux, quand on est dans les amphis, quand il y avait des mobilisations, etc., je me dis, il y a des moyens. Moi, je n'étais pas, quand j'étais à l'école, j'étais un peu pas très disciplinée, mais je ne savais pas qu'il y avait des moyens d'être. Là, je suis rentrée vraiment dans la base totale. D'un apprentissage très rapide.
La formation intensive.
Attention. Et donc, c'est vrai que le hasard de la vie est assez bizarre. Il paraît qu'il n'y a pas de hasard.
La première cause pour laquelle vous vous êtes, je ne sais pas, rejoint une association ou...
Alors, c'est vrai que quand j'étais très jeune, quand j'étais au lycée, effectivement, je défendais un petit peu mes camarades. Et puis, j'avais regardé. Mais quand, après 68... Après 68, j'ai commencé à adhérer à des associations qui s'occupaient des gens en difficulté, notamment des migrants. C'était, après, je me suis pas occupée que des migrants. Donc, c'était des associations plutôt humanitaires. C'est du soutien scolaire, on était les familles, on faisait des traductions, etc. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu formée, mais ça me suffisait pas. J'avais envie quand même pas de me battre au sens, mais d'aller plus loin que de faire des cours de français, et puis de voir que ce qu'on voyait les parents, enfin, on avait quelquefois les enfants, les parents qui avaient subi la même chose et qu'on était au même point, donc on se dit, faut avancer. Donc après, effectivement, on a un petit peu avancé, mais ça m'a beaucoup formé sur le rapport à l'autre. Que je m'étais beaucoup occupée des femmes, notamment des femmes étrangères et des enfants. Et ça a été vraiment non seulement très formateur, mais il y a eu des échanges très, très, très forts. Parce que j'ai compris que, pour moi, c'était des gens comme nous, mais eux, ils étaient habitués à ce qu'on les traite quand même. Enfin, les traite pas, et qu'on leur parle un peu de façon un peu scolaire ou un peu.
Moi, je condescendante.
Oui, voilà. Moi, je n'étais pas amie, mais une relation normale. Et ça a toujours été un peu mon fil conducteur. Je n'ai pas à faire semblant d'être amie, d'être maman, d'être sœur. Ça, de toute façon, c'est pas dans mon caractère. Et ce qui fait que c'est plus direct et c'est plus sain. Enfin, ça me semblait beaucoup plus sain que de faire autrement. Et j'ai tout le temps fait comme ça, même quand on est sur les camps roms. Qui me disent des choses qui sont pas vraies. Je leur dis que c'est des menteurs. Enfin, je veux dire, mais je vais pas par quatre chemins. Et ça les amuse beaucoup d'ailleurs. Parce qu'on est un peu amis de relation comme ça. Voilà. Puis bon, je veux dire, si vous voulez aider les gens aussi à poursuivre leur vie, c'est pas en faisant du misérabilisme, c'est pas non plus en disant mes pauvres. Ça, je l'ai vu parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont déjà sur leurs épaules vraiment beaucoup, beaucoup de. Notamment, bon, vous voyez les migrants là qui arrivaient, là, quand vous entendez leurs récits, là, entre la Libye, etc., t'as pas besoin en plus de faire du misérabilisme, t'as envie de leur faire continuer leur route et être à égalité à côté d'eux.
Page 55, le début du chapitre des ados à la rue commence ainsi. Silencieuse jusque-là, la municipalité de Vintimille prend un arrêté coup de poing le 2 juillet, donc là on est en 2015 je crois, dont l'objet est l'interdiction de distribuer de la nourriture aux migrants dans des lieux publics en dehors des personnes autorisées. Cet arrêté sera révoqué puis rétabli à plusieurs reprises avant d'être à nouveau suspendu fin avril 2017. Pour le contourner, les solidaires français regorgent d'inventivité. En fait, le long du livre, hein, on voit qu'il y a d'un côté des décrets qui tombent, des décisions de justice, des textes à appliquer, à exécuter hein, pour les forces de l'ordre. Et puis de l'autre, il y a les gens qui sont sur le terrain et qui doivent gérer en fait, les conséquences de tous ces textes. Et là, par rapport à celui-ci, là, hein, l'interdiction de distribuer de la nourriture, puisque ça, c'est quelque chose qui est revenu dans plein d'endroits hein, en France, je me demandais, en fait, donc pourquoi vous les contournez et qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas ?
Tous ensemble, on s'est dit, enfin, tout le monde a dit, on va continuer. Au début, ils avaient invoqué les problèmes d'hygiène, enfin, tout le monde a décidé de continuer, donc chacun à sa façon. Nous, on y allait, même quand on y allait, et que c'était interdit, les policiers italiens qui nous arrêtaient, moi je parle italien, je dis excusez-nous, les Français on ne savait pas, etc., on fera plus, ça, on venait quand même, au bout de trois fois quand même ça ne marchait plus trop, mais ce qu'on avait fait aussi c'était, on préparait des sacs, des petits sacs, et en voiture, on tournait dans toute la ville, et comme un peu le Tour de France, hein, alors, quand on voyait des migrants dans la rue, on s'arrêtait, on leur donnait, etc. Quand la police arrivait, on se cachait. À la fin, c'était presque un jeu. Ça les faisait rire, les migrants, parce qu'ils couraient, nous, on courait. Enfin, ils étaient devenus amis. Donc, on tournait dans toute la ville et on les distribuait comme ça. On avait trouvé des feintes, on mettait certaines nourritures quelque part et les gens savaient, etc. Mais ça n'a jamais. Donc, la distribution de nourriture, du coup, n'a jamais arrêté. Parce que, de toute façon, on ne pouvait pas laisser les gens comme ça sans manger. Mais c'est vrai que. Il y a eu des scènes très très drôles, mais c'était triste quand même de distribuer comme des voleurs et que des sacs plastiques avec de la nourriture. Enfin, là, moi j'en ris maintenant, mais c'est vrai que quand je voyais ces pauvres gens qui étaient là, qui n'avaient rien, puis qui tendaient la main pour un sac plastique, c'est quand même des images qui sont assez difficiles à supporter, alors que de la distribution de nourriture, je ne vois pas pourquoi. En plus, le nombre, comme je vous dis, n'était pas énorme et ça se passait très très bien parce que quand on distribuait de la nourriture, enfin, il y avait beaucoup d'associations, par exemple, qui faisaient des plats, qui faisaient à manger, tout était bien. Il y avait des fils, tout était bien ordonné, c'était très propre, tout repartait propre en même temps, et les gens avaient mangé, on distribuait des vêtements, etc. Bon, ça, c'était, mais ça n'a pas, ça n'a pas duré très longtemps, en fin de compte, c'était un peu des effets d'annonce, puis ils ont compris qu'on serait tout le temps là. De toute façon, on aurait trouvé d'autres solutions. Hein.
Mais quand même, parce qu'il y a aussi le problème de l'accès à l'eau, puisque là aussi, il y a des coupures d'eau sur les camps informels, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu se reproduire dans plusieurs endroits, et on l'a vu dans d'autres camps pendant le confinement, au début du confinement, en région parisienne, où il y a eu des annonces comme ça de coupures d'eau. Quel est le but de ces coupures d'eau, d'alimentation, d'approvisionnement, qui sont des choses nécessaires à la survie d'un être humain? Donc, est-ce c'est de pousser les gens à partir? Qu'est-ce qui motive de telles décisions?
Alors, la coupure d'eau en Italie, c'était d'autant plus dramatique parce que le fleuve le long duquel ils campaient était pollué. Donc, nous, on ravitaillait énormément en bouteilles d'eau. Ça nous était autorisé. Il y avait très peu de points d'eau. Il y avait aussi la Caritas qui distribuait des bidons. Devant les églises, il y avait des bidons d'eau. C'était, je vous dis, pas les mêmes situations que partout. Donc, parce que nous, on s'était préoccupé des gens avec des bébés qui donnaient de l'eau comme ça. Donc, il y avait énormément d'eau qui apportait là. Il y avait quelques, ils ont pas non plus arrêté. Il y a pas eu tellement de coupures d'eau en Italie. Il y en a eu certaines. Là, je vois, il y avait des fontaines qui étaient en dehors des jardins. Je vois là récemment, ils les ont mis à l'intérieur. Enfin bon, ça c'est chez nous c'est pareil. À Nice, ils les enlèvent, etc. Et si vous voulez, il y avait beaucoup de gens. On a effectivement apporté beaucoup d'eau. Et c'est vrai que l'église avait, je vous dis, il y avait des gros bidons devant où les gens pouvaient prendre de l'eau. Donc ça, je veux dire, là, il y a eu tellement d'aides diverses entre des gens de la vallée de la Roya, entre les gens de Nice, entre des gens qui venaient du Var, entre l'église catholique qui a accueilli. Mais
donc il y a de nombreux solidaires dans cette vallée de la Roya et dans votre région, dont nous avons entendu parler là au travers des procès que certains ont jugé devenir du harcèlement de plusieurs personne, Martine Landry, Cédric Héroux, on voit tous les rebondissements. Donc il y a l'importance de la solidarité, de porter secours, qui est évidemment très présente dans ce livre et dans vos activités. Mais on voit qu'il y a aussi, pour vous et vos amis solidaires, l'importance de surveiller et de témoigner de la façon dont est appliqué le droit ou de la façon dont n'est pas appliqué le droit. Et vous alertez régulièrement avec des associations, comme justement Amnesty International, sur des abus dont sont victimes les migrants en France, en Italie ou ailleurs, des expulsions qui peuvent être illégales, des mauvais traitements, voire de la torture. Ce travail de témoignage, c'est aussi quelque chose de très important, en fait, de défendre des personnes qui ne peuvent pas se défendre.
Voilà, c'est le plus important, mais c'est le plus désolant parce que, par exemple, sur les mineurs, il y a beaucoup de mineurs, il y a des milliers d'enfants qui arrivent tout seuls. Et donc, un mineur, normalement, ne doit pas être arrêté à la frontière ni arrêté nulle part. Puisque, comme je vous le disais, il dépend du droit de l'enfance, la protection de l'enfance. Et il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été arrêtés et remis en Italie. Et donc, ces enfants-là sont obligés aussi quelquefois de se cacher pour se sauver. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont pris des risques aussi. Il y a des enfants qui partaient. Moi, j'en ai vu qui étaient blessés, mais qui avaient été repris par la police. Et quand je leur disais, mais fais attention, mais ils te disaient toujours, on va recommencer. Donc, là, en Italie, donc, il y avait à la frontière. Alors, il faut savoir que quand la frontière de Vintimille, la première ville, c'est Menton-Garavant. Et c'est une ville où vous pouvez arrêter les personnes et les renvoyer dans le pays. Après, vous ne pouvez plus. Enfin, c'est trop long à expliquer pour les auditeurs, c'est quelque chose de compliqué. Donc, les gens prennent le train, les migrants prennent le train, arrivés à Garavant, le train s'arrête et les policiers montent.
Le train depuis l'Italie, donc.
Depuis l'Italie, pardon. Les policiers montent et font descendre tous les gens qui sont de couleur noire, qui est aussi une discrimination. On l'a fait constater tant de fois, etc., et il n'y a rien qui se passe. Donc, ils les font descendre, ils les renvoient en Italie. Ils rentrent dans la PAF, dans la police des frontières, donc ils les mettent dans des Algeco, le temps que la police italienne les reprenne. Et quelquefois, vous voyez l'aide à des femmes avec des bébés, quelquefois des mineurs qui sont là et qui ont passé la nuit dans ces Algeco, où il n'y avait pas d'eau au début, etc. Donc on s'est battu pour des choses comme ça, mais ce n'est pas le plus important. Donc nous, on a effectivement, avec beaucoup d'associations, les grosses associations, les moins grosses, on a fait ce qu'on appelle les observations à la frontière. On a observé toutes ces irrégularités à la frontière, ces renvois illégaux, les mineurs, en plus quelqu'un qui rentre en France, s'il dit « je demande l'asile », on doit faire la demande. Enfin, il y a eu beaucoup d'irrégularités, la France vient d'être condamnée d'ailleurs pour ça, mais ça ne change rien. C'est ça que je ne comprends pas, c'est que toutes ces régularités, par exemple, sur les mineurs, tout le monde le sait, Monsieur Toubon était intervenu beaucoup de fois et ça n'a rien changé, il continue à le faire.
En tant que défenseur des droits ?
Oui, parce que là on a des amis qui sont allés là cette semaine, parce que c'est chacun notre tour qui allons, ils ont encore constaté les mêmes choses, que des mineurs ont été renvoyés, que des femmes avec des enfants, qu'il y a des familles qui ont... Vous voyez, un exemple, autrefois, on me téléphone d'Italie en me disant, il y a une dame avec son mari et son bébé, enfin son enfant, qui prenait le train. Ils ont arrêté la maman qui était enceinte, presque 9 mois, et ils n'ont pas laissé le mari et l'enfant. Donc le mari et le fils étaient restés là-bas, vous vous rendez compte de la situation ? Donc on a demandé à des gens bienveillants, ils sont allés les chercher, et ils ont réussi à ce que l'enfant et le mari viennent. Comme ça, bon, la femme a accouché, il y a la famille ensemble, mais vous vous rendez compte un peu d'une cruauté de voir un couple comme ça, que la femme, et ça se voyait qu'elle était enceinte 9 mois, ça se voit quand même. Et on a eu plein d'histoires comme ça, dramatiques, franchement. Et il y en a, moi je sais, parce que moi je vais souvent voir j'ai des nouvelles des migrants qui sont passés, et eux veulent pas se souvenir du passé, etc. Mais ils sont maintenant heureux parce que on les a laissés passer, ils sont dans leur famille, ils sont, etc. Et puis ils travaillent. Ici, la frontière, il y a des abus, même les enfants qui veulent rentrer dans leur famille, laisser aller rentrer dans les familles. Donc la France a été condamnée pour ça. Donc il y a eu beaucoup aussi de personnes qui ont été un peu blessées, mais c'est un peu difficile. Et je veux dire, la France, pour moi, elle est condamnable parce que quand elle empêche les gens de partir, et quand on voit, il y a l'histoire de cette jeune fille qui passe sous les tunnels ou des gamins qui montent sur les hauts des toits et qui sont carbonisés, je veux dire, on est responsable de ça. Je veux dire, c'est pas possible qu'on laisse faire ça. Et c'est vraiment dramatique. Moi, je me souviendrai toujours de l'enterrement de cette jeune fille où l'évêque avait dit, vous êtes arrivé dans un pays que vous croyez libre et vous êtes plus libre puisque vous n'êtes plus là. Enfin,
jeune femme érythréenne.
Oui, oui. Et je me suis toujours demandé, c'est une image qui m'obsède parce que tout le monde s'était mobilisé, payer les obsèques, comment la maman qui avait donné ses économies, mis tout son espoir et qui aimait sa fille, l'a vu arriver. Moi, c'est une image que je n'ose même pas imaginer. Il y a eu des scènes comme ça. Et bon, mais vous savez, il n'y a pas que la France, parce que regardez les pays d'Europe qui n'en veulent pas, etc. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a une législation européenne, que certains pays font ce qu'ils veulent, que nous, la France, l'Italie aussi, l'Italie, ils ne sont pas non plus. Tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut. La Grèce, regardez pourquoi tous les gens sont là-bas en Grèce. C'est une horreur ce qui se passe là-bas. Alors que bon, on a l'impression d'être dans une loterie. Moi, je t'en prends 10 000, moi, je t'en prends. Enfin, non, c'est vraiment inhumain complètement. Et moi, vous savez, je suis allé voir en Allemagne des gens qu'on avait aidés. Et ils sont très bien, je veux dire, en France, c'est pas qu'ils avaient aucune chance d'avoir l'asile, c'était long, ils n'en pouvaient plus, etc. Là, ils leur ont appris le français, ils parlent le français très bien, ils vont les former pour le travail, il y a une petite fille qui est née. Ici, c'est d'un compliqué. Moi, je vois des jeunes ici, ça fait 2 ans qu'ils attendent l'asile et qu'ils dorment dehors, parce que normalement, c'est pareil. Là, on va au tribunal, parce que quand quelqu'un demande l'asile, c'est pas la même chose qu'un sans-papier qui n'est pas demandeur d'asile. Il reçoit une petite aide, il doit être hébergé. Tous les jeunes ici qui sont célibataires ne sont pas hébergés. Donc à chaque fois, les associations font des référés qui sont gagnés, mais vous vous rendez compte, pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui sont dans la rue, et je peux vous assurer que ça a modifié un peu le comportement des jeunes. Moi, j'ai emmené à l'hôpital des jeunes qui étaient dans la rue parce qu'ils commençaient à se battre, parce que ceci, parce qu'il y avait le territoire, etc. Ils allaient vers une espèce de paupérisation terrible, et la crainte qu'on avait, c'est qu'ils boivent ou qu'ils... Donc, là, il faut se battre à chaque fois pour réclamer les droits. Et heureusement, on a beaucoup d'avocats ici sur Nice, dans la région, qui nous aident et qui sont très compétents. Vous avez dans toutes les affaires, les avocats étaient là. Et là, pour les mineurs, le fois, il y avait 19 mineurs qui ont été sortis des foyers, c'est-à-dire qu'ils vont dans les foyers de l'enfance. Ils ont été sortis du foyer parce qu'ils contestaient leur minorité. Donc, ils sortent, boum, dehors. Donc, il y a des familles. En France, il y a des gens qui les aident, il y a des associations qui les hébergent. Donc on va au tribunal et les réintègre. Mais si il n'y avait pas les gens, ça veut dire que ces gamins qu'on sort comme ça parce qu'on conteste leur minorité et qu'ils vont se retrouver un mois et demi comme ça dans la nature, mais imaginez les risques qu'ils peuvent encourir, etc. Alors que franchement, vous voyez, il y a plein de petites... ce sont des petites choses cruelles quand même, je pense, notamment pour les jeunes.
page 62, vous écrivez, alors quand je dis vous, c'est au pluriel,
c'est toutes les deux,
hein.
oui.
Voilà, vous et la journaliste Aurélie Selvi. Et donc vous écrivez, en février 2016, l'agence policière Europol alertera l'opinion européenne sur le fait que plus de 10 000 enfants migrants non accompagnés ont disparu en Europe sur les 18 à 24 derniers mois et redoute que nombre d'entre eux soient enrôlés dans des réseaux de prostitution. Donc le risque d'être enrôlé dans des réseaux de prostitution, il existe, malheureusement, il existe pour les mineurs, mais aussi pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Est-ce que depuis 2016, donc date de ce que je viens de lire, là, est-ce que vous avez su ce que sont devenus ces 10 000 enfants disparus ?
Alors, il y a eu beaucoup d'études et d'articles là-dessus. Personne ne sait vraiment ce qu'ils sont devenus. Moi, je peux vous parler de ce qui se passait, par exemple, à Vintimille. Quand à Vintimille, on voyait par exemple à la gare pour la prostitution, après je vous parlerai des mineurs, on voyait des gens, il y avait des érythréennes par exemple, qui sont très jolies jeunes filles, très jeunes, qui étaient aussi des mineurs, et donc les gens venaient leur dire, ben voilà, on va vous héberger, etc. Et elles, très gentiment, elles y allaient. Donc il y a beaucoup de prostituées, beaucoup de prostitution en Italie, et sur la frontière. Quelquefois, moi, j'ai même vu devant les policiers voir ce spectacle-là, enfin, ces transactions-là. On était allés les voir avec une amie italienne, et eux disaient que c'était pas vrai, mais on le sait bien. Donc, il y a eu beaucoup. Moi, je me souviens quand il y avait à peu près 1000 migrants qui dormaient dans la cour de l'église. Il y avait des jeunes filles le soir qui s'en vont et qui me disent, vous partez comment? Elle dit, on a trouvé des camionneurs. On n'osait même pas se poser la question de ce qu'allait leur devenir, quoi, parce qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, vous savez. On leur dit, il faut que tu ailles là-bas. Et je pense que, vous savez, moi, j'avais une jeune fille qui avait été blessée, puis je l'emmène à l'hôpital et en fin de compte, elle avait un patch. Donc les mamans savent qu'elles vont traverser la Libye, qu'elles vont se faire violer, ils savent qu'elles vont affronter tout ça, mais vous rendez compte, une maman qui fait ça, et donc elles avaient des patchs contraceptifs, donc c'était, et c'est pour ça, sinon il y aurait déjà beaucoup de bébés, mais c'est vrai qu'on en parle très peu de toutes ces jeunes filles, parce qu'il n'y a pas que de la traite, il y a aussi de tous les passages où les gens violaient, ils volaient les petits garçons dans certains coins. Donc c'est vrai que c'est quand même un phénomène et qui perdure, parce qu'on en parlait l'autre fois, j'étais en Italie, on ne peut pas donner de chiffres en Italie, etc. Mais en Italie, tous ces jeunes et toutes ces jeunes filles qui sont dans le sud de l'Italie, qui remontent pour aller à Vintimille, c'est pas facile parce que là, c'est loin. Donc je suppose que le chemin est semé des mêmes embûches, enfin peut-être moins cruelles que la Libye, mais je pense qu'ils sont sujets à ça. Parce qu'en plus, l'argent, ils ont de l'argent, mais ça part vite quand même. Donc et c'est vrai qu'on n'a jamais su. Moi, j'ai connu une jeune fille qui était sortie, que l'Église avait pris sous sa protection et qui avait été victime. Enfin, elle racontait pas, mais comme il y avait des psychologues, les psychologues avaient un peu. Mais elle était dans un état et tu te dis comment tu continueras à vivre comme ça, quoi. Je veux dire, quand les traumatismes. Et souvent, effectivement, elles racontent pas. Déjà, moi, je me souviens, les psychologues disaient, elles veulent pas raconter. Je veux dire, c'est quand il faudrait qu'on soit longtemps, vous savez, longtemps, etc. Donc, moi, je sais que personnellement, j'ai reconnu beaucoup de gens, j'ai jamais demandé. Parce que ce qui leur était arrivé, s'ils ont envie de parler, ils vous parlent. S'ils ont besoin, je crois qu'ils avaient besoin d'autre chose. Ils avaient besoin d'amitié, ils avaient besoin de découvrir la France, ils voulaient savoir comment était la France, etc. Et oui, la géographie, c'était assez drôle, mais ils nous racontent, ils nous demandaient plutôt ça. Et apprendre le français pour pouvoir dire le train, la gare, Paris. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est une histoire dramatique pour les jeunes. Et là, il y a beaucoup moins d'entrées, là, depuis 2019, il y a eu beaucoup moins d'arrivées de mineurs en Europe. Ça a beaucoup baissé, alors je ne sais pas pourquoi, ils n'analysent pas, mais il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus difficile de toute façon, parce que entre la Libye qui arrête, entre le fait peut-être aussi que les parents savent, parce qu'en plus, il y a, vous savez, les parents, quand les mineurs s'en vont, c'est pareil que quand une autre personne de la famille s'en va, ils vont donner toutes ces économies à l'enfant, pensant que l'enfant est plus, enfin, je veux dire, va avoir plus de chance, puisque bon, il est mineur. Mais le but des parents, c'est aussi que l'enfant puisse passer et qu'il puisse travailler, comme ça a toujours été comme ça, hein, je veux dire, depuis que puisse travailler un petit peu ou faire de l'apprentissage, etc., pour un peu envoyer de l'argent à la famille. Et il y a des parents, moi j'ai vu des gamins, tous les jours, ils ont deux ou trois messages. Donc ça aussi, il y a une exploitation, parce que j'ai certains enfants qui sortent des foyers, et qui vont répondre à l'appel des parents. Voilà. Parce que les parents ne vont pas attendre qu'ils aient fait la formation et puis qu'ils aient du travail. Ben ça, c'est un peu un véritable problème. Mais maintenant, il y a beaucoup moins d'arrivées quand même de mineurs. Avant, c'était vraiment énorme. Et même de jeunes filles seules, il y en a moins. Avant, il y avait vraiment beaucoup. Dans les premiers temps, effectivement, tout le monde commence à arriver. Mais le problème, c'est qu'ils passaient, avant, comme je vous disais, ils passaient sans problème parce que la frontière était ouverte. Donc, il y a eu cette période-là où ils ont continué à faire comme avant. Puis après, ils se sont aperçus que bon, les frontières étaient plus difficiles, etc. Et sinon, voilà, c'était ça le problème.
Donc, vous avez recueilli avec la journaliste Aurélie Selvi pas mal de témoignages de personnes de tous horizons parmi les solidaires. Et on sent que les migrants, en plus d'avoir souvent fui des situations souvent terribles dans leur pays, sont aussi beaucoup victimes d'illusions. Justement, un peu comme on en parlait là. Je pense notamment au témoignage d'Andrea Giglio, qui travaille dans le domaine de la santé, et qui dit « Quand ils arrivent en Europe et se rendent compte de la situation, du fait qu'ils ne peuvent pas circuler librement, qu'ils ne sont pas les bienvenus, le choc est extrêmement fort. Mmh. » Vous dites « Découvre aussi le racisme. » Mais selon vous, qu'est-ce qui nourrit cette illusion ?
Ce qui nourrit, enfin moi ça fait longtemps, je vous dis, ça fait des années, que je fais des permanences pour les migrants. Par exemple, quand au début, il y avait beaucoup de gens du Maghreb qui arrivaient ici à Nice, et tout le monde le sait, et dès qu'ils avaient leur carte de séjour, ils repartaient au pays avec des vieilles voitures qu'ils n'avaient pas payées cher, ou beaucoup de cadeaux pour tout le monde, et ils disaient à tout le monde, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc il y a eu ça très longtemps, parce que quand on a fait le film justement sur la révolution tunisienne, puisqu'ils avaient été bloqués en Italie pareil, quand on est allé le présenter à Tunisie et que les jeunes Tunisiens ont vu que ce que racontaient leurs copains qui étaient partis n'était pas du tout ce qui leur était arrivé, mais c'est vrai, et là l'illusion, c'est pour les demandeurs d'asile, alors par exemple pour les gens comme, il y a beaucoup de Sénégalais qui arrivaient et ils me disaient, Teresa, t'occupe pas de nous, occupe-toi des autres. Pour les autres, il y a la guerre, c'est difficile, mais nous, non. Parce que tu sais, nous, notre pays, il a été colonisé pendant des années. Nous, on parle le français, donc forcément, ils vont nous prendre. Et moi, je savais pas trop quoi répondre à ça, quand même. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors donc, si vous voulez, les gens racontent plus ou moins de choses. Et il y a aussi une autre chose, c'est que, ils s'appellent entre pays, entre personnes de même nationalité. Par exemple, ils vont dire, moi je connais par exemple beaucoup d'Érythréens qui sont en Suède et qui appellent ceux qui sont là en disant, ben voilà, tu peux venir là, etc. Enfin, il y a quand même, si vous voulez, moi les gens disaient, toi, mais pourquoi ils ont des téléphones portables, c'est du luxe, etc. D'abord, c'est le contact avec la maman ou le papa, je veux dire, ça c'est un peu. Mais si vous voulez, ça circule beaucoup. Je veux dire, moi je suis allé voir d'une famille érythréenne qui est partie de France alors qu'elle aurait pu, je pense, voir les papiers, mais enfin ils ont choisi parce que des gens qu'elle connaissait de la famille, était par exemple en Allemagne. Donc je veux dire, il y a beaucoup de... Moi, je me souviens, au tribunal, il y avait des Afghans, c'était l'hiver, et ils ont gagné, parce que bon, ils ont été relâchés, et ils voulaient aller en Suède. Et le juge, il disait, mais pourquoi vous voulez aller là-bas? Donc il leur expliquait qu'il faisait froid, tout ça, mais eux, ils s'en fichaient. Ils avaient des gens... Il y a des communautés un peu partout, et donc les gens vont dire, bah, tu vois, dans ce village-là, il y a besoin de... C'est quand même un monde comme ça. Sauf pour certains, qui eux, il y a des gens qui sont seuls et isolés, et eux, ils ne connaissent pas. Mais il y a eu beaucoup, notamment, les Sénégalais, il y en a beaucoup, par exemple, sur la Côte d'Azur, mais c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est plus possible d'avoir... Enfin, les lois ont changé. On explique que les lois ont complètement changé. À l'avant, il y avait besoin de travail, etc. Donc, il y a beaucoup de Sénégalais, de Capverdiens, de Philippins qui font les femmes de ménage. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est difficile de leur dire que ça ne marche plus comme ça, quand même. Parce que moi, je connais un Érythréen. Lui, il a sa sœur en Suède, son frère en Norvège. Donc, si vous voulez... Pour eux, quand ils partent, ils vont aller là ou là, pas forcément rester. Il n'y a pas beaucoup qui veulent rester en France, contrairement à ce qu'on pense. Sauf ceux qui parlent français, et encore. Mais sinon, les gens, ils ont d'autres destinations que la France. Quand même. Si vous voulez, ils savent, parce que eux, maintenant, ils savent que la frontière est fermée. Mais les premiers ne pensaient pas que la frontière était fermée. De toute façon, il y a une chose aussi. Ils savent, ceux qui savaient en début, ça a été une catastrophe, etc. Là, ceux qui arrivent maintenant, ils ont compris que c'était fermé. Sauf qu'ils te disent, plutôt mourir, plutôt aller ailleurs que rester chez nous. Les gens, ils ne peuvent pas rester dans les pays en guerre. Les gens, ils ne peuvent pas rester au Yémen. Les gens, ils ne peuvent pas... Donc, je veux dire, ceux-là savent qu'ils vont affronter plus de difficultés. Ça, c'est sûr. Mais ils partent quand même. Moi, ils m'ont expliqué que c'était rien par rapport à ce qu'ils vivaient dans leur pays, notamment quand on parle des violences pour les femmes, quand on parle des meurtres qu'il y a eu partout, etc., et des guerres, vous savez, les gens qui sont en guerre depuis des années, ils te disent, nous, c'est rien là, si c'est que de rester dehors, et puis on va trouver des solutions, mais si on reste chez nous, on meurt. Donc ils savent, c'est pour ça que c'est pas... Ceux-là ne se font pas d'illusions, mais c'est ça ou la mort hein, pour certaines personnes. Mort de faim, mort par la guerre, enfin vous connaissez un peu tout ça.
Page 180, on distingue nettement, en fait, à lire ce journal de bord sur 5 ans, que deux lectures, deux approches de la situation se confrontent en permanence. Donc on en a déjà parlé, hein, l'une qui vient de l'administration, de l'État, qui semble une froide et clinique exécution de décisions et d'actions implacables, déshumanisé, et de l'autre une approche qui est à l'opposé, guidée par la solidarité, quitte à déroger à la loi. Et puis au milieu de ces deux approches, je dis deux approches parce que, de parler globalement, parce qu'il n'y a pas non plus que des pourris du côté des autorités, il y a quand même aussi des gens, heureusement des gens bien partout, je pense, mais là, on voit, hein, puisque c'est le parti pris de votre livre, de montrer sur le terrain comment les décisions, l'exécution des décisions et d'appliquer la loi, ce que ça provoque comme conséquence dans la vie de gens qui sont là. Donc, cette approche, ensuite, la deuxième approche, donc, qui est guidée par la solidarité, quitte à déroger à la loi, et puis au milieu de ces deux approches, de ces deux attitudes, il y a des vies humaines dont le présent et l'avenir dépendent beaucoup, voire complètement, d'entre les mains de qui ils tombent sur leur parcours, ce qui les rend très vulnérables. Est-ce que ces deux camps, entre guillemets, se rapprochent parfois ? Est-ce qu'il vous arrive de dialoguer avec des responsables politiques ou des forces de l'ordre de la région ou au niveau national, de dialoguer autrement que dans les salles des tribunaux ? Parce que là, c'est toujours dans la confrontation, en fait, puisque la plupart du temps, les deux parties se rencontrent quand vous en arrivez au tribunal. Mais est-ce qu'au niveau de ceux qui prennent ces décisions, que ce soit couper l'eau, les interdictions diverses et variées, ou fermer, que ce soit l'église de Saint-Antonio ou le centre, est-ce que ces gens qui prennent des décisions, est-ce qu'il y a des moments où vous pouvez vous rassembler autour d'une table ? Ça semble peut-être naïf, mais enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des moments où on vous donne l'opportunité de remonter votre vécu du terrain ?
Pas par les autorités. On n'a jamais eu ça. Par exemple, les élus locaux, ils sont trois dans leur botte pour le rejet. Là aussi, on passe au tribunal à chaque fois. En Italie, je me souviens quand il y avait le premier maire qui était là, qui était un maire assez sympathique, Monsieur Ioculan. Effectivement, on faisait des réunions. Par exemple, on faisait des réunions par rapport à la situation sur Vintimille, le camp, etc. Plus, donc il allait beaucoup sur le camp de la Caritas, etc. Donc on avait beaucoup discuté, même avec les gens du La Roya étaient venus aussi avec eux. On était tous là, on a beaucoup parlé des distributions alimentaires, puis après ça s'est vraiment envenimé, à part pas de notre fait, c'est que les décisions du gouvernement ont changé et qu'on n'a plus rencontré ni le maire, que ce soit le maire d'ici chez nous, aux Alpes-Maritimes, ou que le maire le maire a changé de toute façon, mais on n'a plus rencontré à chaque fois, c'est ou par la voie juridique, ou par la mobilisation, ou par l'entêtement qu'on a à faire les choses qui sont interdites. Mais sinon, on n'a jamais eu là. On a des rencontres quelquefois avec les services du droit d'asile pour leur signaler un petit peu pas les abus, mais le contournement de la loi, etc. Enfin, le non-respect de la loi. Donc, t'obtiens quelques petits ou l'accueil. Vous savez, l'accueil est pas toujours bon, etc. Mais c'est pas les grosses victoires, quoi. Je veux dire, c'est vraiment du quotidien pour améliorer le quotidien. Enfin, dans la région, on n'a pas. Ça manque beaucoup, hein, parce que on n'a pas de. On a des mairies qui sont pratiquement toutes contre, quand même.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit bien aussi, là, quand on arrive vers la fin du livre, page 278, on a l'impression que vraiment, même moi, sans être sur place, mais en suivant de loin l'histoire par les médias de Cédric Héroux ou d'autres solidaires dans votre coin, ce qui est curieux, je trouve, c'est qu'on a vraiment l'impression que la justice se cherche. C'est assez curieux à observer. Un jour, vous êtes coupable, le lendemain, non, selon que l'on considère que la solidarité est un crime ou non. Et il y a toujours cette question, en fait, solidarité ou illégalité. Et comme vous l'écrivez, vous écrivez à la barre, ce sont deux visions du droit et du devoir qui s'entrechoquent. Et même les accusateurs peuvent devenir les accusés. Et vous mentionnez ainsi plus loin que fin 2017, donc je cite, le chiffre tombe 50 000. C'est le nombre de reconduites à la frontière de migrants qui ont été effectuées durant l'année, annonce le 4 décembre au matin sur les ondes de France Bleu Azur le préfet des Alpes-Maritimes. Ironie du sort, entre 2017 et 2018, le haut fonctionnaire sera condamné pas moins de 4 fois par la justice pour pratiques illégales envers les migrants, suite en grande partie à des reconduites à la frontière d'exilés mineurs en dépit de l'obligation légale de les prendre en charge et d'assurer leur protection. CQFD. Comment vous vivez ce rapport à la justice? Parce que c'est quand même, on a l'impression que c'est toujours un peu flou, quoi.
Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas flou. On sait qu'on a, à Nice, on sait qu'on a la préfecture et la préfecture qui va tout le temps attaquer par rapport à quoi que ce soit. On sait aussi que, on est en vigilance permanente dès que justement, on est souvent nous accusés, etc. Mais par exemple sur les mineurs, là on tient bon, puisque là c'est la justice est obligée de les condamner, puisque si vous ça c'est clair, un mineur c'est pas le ça rentre pas dans le droit des étrangers, ça rentre dans la protection de l'enfant. Donc là-dessus, si vous voulez, c'est des cas entre guillemets faciles, sauf que on connaît pas tous les mineurs qui se sont fait refouler. Donc ça veut dire aussi que parfois il doit y en avoir, etc., et qu'il faudrait le faire savoir. Mais c'est assez pénible parce que quand on va au tribunal, on allait tout le temps au tribunal et c'est vraiment une perte de temps énorme. C'est-à-dire que faut attendre, puis renvoi par renvoi, et puis pendant que vous n'êtes pas renvoyé, vous n'avez pas le droit d'aller en Italie, par exemple. Moi, c'est ce que je craignais, j'ai vraiment fait attention, parce que là, sinon, tous ceux qui sont en instance dans les tribunaux n'ont pas le droit d'aller en Italie, et vice-versa d'ailleurs. Hein. Et donc, on est un peu aussi sur la corde raide, nous, parce qu'on fait un petit peu attention, on est obligé de prendre plus de précautions. Et c'est vrai que ça combat tous les jours, on n'a jamais eu de préfet qui soit... Moi, ça fait très longtemps, comme je vous disais tout à l'heure, que je m'occupe des sans-papiers. Avant, je fais partie d'une association qui s'appelle le COVIA. Donc, à chaque fois que le préfet changeait, on demandait d'être reçu. Il nous recevait. Je veux dire, c'était ça. Nous, on disait, ben voilà, il y a ça qui fonctionne pas bien. Enfin, bref. Et on était reçu. Arrivé, il y avait du dialogue. Mais alors, depuis celui-là, les deux derniers, on n'a jamais, ils nous ont jamais répondu à notre demande de rencontre. Alors que c'était des rencontres tout à fait formelles et je veux dire, c'est pas revendicatif dans le bon sens du terme. On a tout le temps, moi ça fait 25 ans que je fais ça, c'est la première fois que je vois des préfets ne pas vouloir nous recevoir.
Là, on enregistre aujourd'hui le 28 juillet et en fait, vous parlez du confinement, vous parlez du Covid. Donc oui. J'imagine que peu de temps entre votre point final de l'écriture et le moment où il est publié, édité et mis dans le commun.
Oui, on avait terminé le livre pratiquement et en fin de compte, je ne sais plus comment c'est venu, si c'est l'éditeur ou nous tous ensemble. Comme moi, je suis en contact avec l'Italie tout le temps puisqu'il arrivait quand même des gens qui arrivaient à passer malgré le Covid. Donc il y a la Caritas et les associations comme WeWorld, CAPA, enfin il y a beaucoup d'associations italiennes nous ont prévenus de ce qui se passait en Italie. Parce que quelquefois, quand quelqu'un arrivait, nous ont prévenus de ce qui se passait en Italie, dont c'est là qu'on explique le camp était fermé parce qu'il y a eu un cas de Covid. Et nous, ici, sur place, vous voyez, nous, on était sur place. Donc, on s'est occupé des migrants qui réussissaient à passer ici. Donc, nous, c'est tous les solidaires, faire en sorte qu'ils soient logés pour qu'ils ne traînent pas dans la rue, pour qu'ils aient des problèmes. On a un peu fait là, chacun, toutes les actions, on a coordonné toutes les actions qui ont été faites, dont ils faisaient partie. Donc, ça, sur le Covid à Nice, nous, on était là. Il n'y avait pas de problème. Et sur l'Italie, donc les amis italiens nous ont expliqué, puisqu'il y avait eu beaucoup de gens bloqués. Il y a eu l'opération, notamment en Italie, plus de 300 000 personnes qui ont été prises dans l'agriculture et qui sont maintenant... Nous, on avait un vague espoir qu'il y en ait quelques-uns de régularisés. Non, ils sont de nouveau dans la nature. Donc, c'est des gens qui vont encore remonter et refaire des années qui font cette galère-là, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait, nous, sur Nice, on était, toutes les associations étaient, il y a eu une grosse, c'était vraiment très, très, très bien. toutes les associations, là, il y avait...
Ces personnes dans l'agriculture, ouais. Je croyais qu'elles avaient été... Parce qu'en fait, justement, c'est votre livre, là, il montre aussi les impasses et les situations un peu rocambolesques dans lesquelles se retrouvent les autorités. Par exemple, lorsque l'Italie se retrouve dans l'obligation de régulariser ces personnes en situation irrégulière présentes sur le territoire parce que, comme vous l'écrivez, l'agriculture se meurt faute de main-d'œuvre, puis ils prennent généralement des sans-papiers parce que ça coûte moins cher, évidemment, pour faire toutes ces récoltes et que là, il y a beaucoup de choses à récolter puisqu'en plus, on est au printemps.
Mais alors, ils ne les ont pas régularisés, justement. C'est-à-dire que la ministre, elle s'appelle Teresa Bellanova, elle a proposé que, bon, elles estiment à 600 000, mais bon, ils se sont revenus à 300 000 personnes qui errent dans le territoire sans rien. Et il y a beaucoup de problèmes dans l'agriculture en Italie, comme ici d'ailleurs. Et elle a proposé qu'on les régule, qu'ils aillent travailler chez eux pour 6 mois simplement. Voilà, donc
temporairement.
6 mois.
Le
six
temps
mois,
qu'on se serve d'eux.
Voilà. Donc ça, c'est quand même assez cruel, parce que tout le monde avait dit oui, c'est vrai. Donc elle, quand elle a annoncé ça, elle avait les larmes aux yeux. Mais enfin, 6 mois, ça veut dire qu'ils vont être pendant 6 mois très bien, puis tout à coup, ils vont recommencer. Je trouve ça assez cruel. Donc et d'ailleurs, on voit ces gens qui nous agriculteurs qui reviennent et qui essaient de passer la frontière. Enfin, l'Italie, en plus, étant, c'est paradoxal, parce que moi, quand j'étais petite, on était le pays qui faisait le plus d'enfants. Et je crois que c'est le pays qui en fait le moins maintenant. Et ils ont un problème de natalité, donc un problème d'emploi, donc de salariés, etc., et qui vont finir par le faire. Et alors, ce qui a provoqué ça aussi, enfin ça a provoqué une autre chose, c'est que la mafia aussi a fait ça. Pendant le Covid, bon, on n'a pas développé ça, parce que c'était... Mais pendant le Covid, la mafia, qui elle gérait beaucoup les sans-papiers quand ils étaient dans les fermes, n'était pas très contente que l'État s'en mêle. Hein. Et donc, la mafia, bon, ça ne concerne pas les migrants, mais il y a beaucoup de gens qui étaient endettés en Italie, comme en France, puisqu'ils n'avaient pas... Donc, elle a prêté de l'argent, je vous assure qu'en ce moment, c'est l'horreur. Mais vous voyez, donc, c'est un peu compliqué, quoi. Mais les gens, ils le savaient que ce serait que pour 6 mois. Mais donc, ils remontent, ils reviennent. Et il y avait des gens, même, il y avait des migrants qui étaient passés en France, qui stagnaient, enfin, qui n'avaient rien, qui ont appris ça, qui sont partis travailler dans l'agriculture. Donc là, ils viennent de les revirer de l'agriculture et ils remontent là, vous imaginez, on a fait 4 ans pour arriver ici. Enfin, les gens ne s'imaginent pas, on serait incapable de faire le millième de... Enfin, soit la personne qui arrive ça, le millième de ce qu'ils ont pu supporter, que ce soit les uns les autres. Comment tu peux... Et même nous, je veux dire, t'arrives pas, même quand ils te racontent pas beaucoup, mais quand tu sais le parcours, mais t'arrives pas à imaginer comment moi je serais... On se dit, on serait déjà mort, on serait déjà... Je sais pas, moi... C'est faut vraiment... Et les gens qui sont partis, je suppose qu'ils étaient comme nous, ils arrivent plus durs avant, ils ont la crainte, etc. Et tu vois, c'est pour ça que nous, on les a aidés, qu'il y a eu tous ces solidaires qui les ont hébergés, etc. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent une vie meilleure, parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est des gens qui veulent travailler, c'est des gens... Et il y a des emplois, même en France, qui sont pas... Parce que sur les mineurs, par exemple, qui sont dans les centres, on leur apprend la boulangerie, on leur apprend tous ces métiers-là. Pourquoi ? Parce qu'on va en manquer, mais ça suffira pas. Vous voyez bien ? Il y a des incohérences totales dans ce qu'on fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même le rejet comme ça des gens qui ont souffert, c'est quand même difficile à entendre. C'est difficile à assister à des réflexions que font certaines personnes qui vivent quand même pas dans des états où il y a la guerre, où il y a la misère, et puis où tu as peur chaque matin. Quand même. Et ça, c'est vrai que, bon, je ne sais pas si le livre y contribuera, c'est vrai, mais nous, on va continuer parce que là, il y a beaucoup de gens qui arrivent à nouveau, là. C'est reparti, c'est-à-dire beaucoup de gens, il y a encore eu beaucoup d'arrestations à la frontière ici, à Vatimi. Je pense que ça va être une année dramatique. Hein. Dramatique avec, parce que là, entre ceux qui reviennent, qui repartent, les gens qui sont sur le territoire français, qui n'ont pas de papier, à qui vont recevoir les refus, ceux qui vont arriver, qu'on va bloquer, je n'ose même pas y penser. Et là, justement, la grosse question en ce moment, il y a eu une manifestation en Italie l'autre fois, le dimanche, parce que ils parlent de fermer donc le camp de la Croix-Rouge. Et donc, les associations essaient de faire pression. Là, on sait pas où ça en est. Enfin, on a fait une manifestation en Italie. C'est la pression parce que fermer le camp de la Croix-Rouge, ça veut dire faire prendre beaucoup plus de risques et sanitaires et etc. à tout le monde, ceci dit.
Parce que, à 20 000, le camp de la Croix-Rouge.
Oui, à 20 000. Ils veulent le fermer, ce qui est quand même une aberration totale. Mmh. Et le problème, c'est que le camp de la Croix-Rouge de 20 000, la Croix-Rouge en italien dépend du ministère de l'Intérieur, ce qui est compliqué. Enfin, il y a des gens, je sais, qui demandent à ce que la Croix-Rouge ne soit plus partie du... Mais ça a toujours été comme ça en Italie. C'est assez compliqué d'expliquer ça aux gens. Il y a la Croix-Verte, Martineau. Et la Croix-Rouge, donc, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est assez... Donc, du coup, c'est le ministère de l'Intérieur qui va décider, pas la Croix-Rouge. Alors, les gens, ils disent... Les gens, ils font l'amalgame avec la Croix-Rouge d'ici. Ils disent, mais c'est pas du tout la même chose. Ils sont très gentils, hein, les gens de la Croix-Rouge, là-bas. Hein, c'est pas un problème. Mais ils ont cette organisation. De... Donc, dans peu de temps, on saura... Je pense que d'ici la semaine prochaine, on saura si oui ou non. Et là, si la Croix-Rouge ferme le camp, ça va être une catastrophe. Il va y avoir des gens partout. Et ça va...
Mais là, il y a faire... du monde. Il y a du monde, donc, actuellement.
Oui, et ça... Et les gens de Vintimille, alors ça augmente beaucoup le racisme, parce qu'à Vintimille, comme on le mettait dans le bouquin, c'est une ville qui vit, parce que tous les gens de la Côte d'Azur, ils vont acheter les cigarettes, mais alors, les cigarettes, les bouteilles d'alcool, ils vont manger, ils vont dans les magasins où c'est pas cher, etc. Donc, pendant tout le Covid, ils n'ont rien eu. Vintimille est une ville... vraiment dans un état économique dramatique, donc ce qui renforce un peu le rejet. Donc, Vintimille, s'il n'y a pas le camp de la Croix-Rouge et si les migrants sont partout, je crains qu'il y ait quand même des réactions plus violentes que ce qu'il y a eu, parce que les Italiens, bon, à Vintimille, bon, il y a des racistes comme partout, etc., mais il n'y a pas eu. Mais là, je crois que ça serait quand même exposer les migrants quand même à un danger, parce qu'ils n'allaient pas dans la ville, hein, ils allaient sur le camp ou sur le côté, je veux dire, il n'y avait pas de. Il n'y a aucune raison d'y aller, de toute façon, ils n'ont pas tellement de... Vous voyez, donc, à cette période-là, en plus, fin du Covid, fin des 300 000 qui vont sortir, là, de la fin des bateaux qui arrivent, etc., je pense que la fin de l'année va être dramatique. Vraiment très difficile de penser que dans des sociétés comme les nôtres, il y a des gens qui ont des attitudes, des gouvernements qui ont des attitudes comme ça, où l'humain vient en dernier. Ça, c'est vraiment dramatique. Le mot humain vient en dernier. C'est ça. C'est-à-dire, sont jamais considérés comme des humains. C'est des migrants, c'est jamais ça.
Pour terminer, la culture est donc assez présente, hein, dans votre univers, dans cet univers. Et en fait, ma question que je comptais vous poser, c'est est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une volonté ? Mais vous y avez répondu au début de notre discussion. Donc, ce n'est pas un hasard.
Non, c'est pas un hasard.
Est-ce que vous avez des projets là, culturels au milieu quand même de tout ce chaos et ces difficultés post-Covid pour les mois qui viennent ?
Si, on a des projets. Donc là, on est très culture, on fait par exemple le festival de Super 8 et on a innové puisqu'on a toujours mis des sujets assez difficiles dedans. Le premier film qu'on a fait, c'était sur les migrants, sauf qu'on a mis que c'était, il raconte l'histoire d'un migrant et à la fin les gens s'aperçoivent que c'est un extraterrestre et qu'il part en fusée. Donc le film n'a pas vieilli. Donc on est allé en... Donc on a un projet effectivement de film, on y réfléchit, mais je ne peux pas vous le dire parce que c'est un peu compliqué. On a un projet de film actuellement, on va retarder un petit peu tout ça parce qu'il faut qu'on aille présenter le livre et l'exposition photo. Donc, il va falloir qu'on prenne un peu le temps. En plus, il faut qu'on continue. Enfin, parce que moi, je fais aussi des permanences pour le droit au logement. Donc, si vous voulez, il faut que je concilie mes activités militantes avec le fait de présenter le livre, etc. Donc, on va réfléchir un petit peu au projet. Après, je vous dirai quand on le fera, promis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé la... Et les Italiens font beaucoup ça aussi. On a fait des cabarets solidaires, on a fait des choses comme ça. Et on n'est pas... Enfin, là, on a écrit, mais ça a été pas facile pour moi d'écrire. Parce que moi, je suis quelqu'un de terrain. Et je parle, je haine, mais j'ai un peu du mal. Mais ça fait du bien, parce que ça fait du bien d'avoir posé quelque chose. Oui. C'est comme quand on fait des films, ça pose comme quelque chose. On peut en discuter après. On peut, parce que quand vous rencontrez des gens, puis vous leur dites, voilà, Timmy, il se passe ça et ça, c'est pas... Tu en dis qu'une infime ou qu'un détail, parce que quand les gens le livre, chacun nous interroge en parties différentes et puis veulent savoir des choses, etc. Chacun donne des idées aussi. Je trouve que c'est bien, hein. C'est la première fois qu'on écrit un livre et c'est pas mal. C'est marrant parce qu'on est six enfants, nous, enfin, on n'a pas vécu la même chose, mais on a fait partie des gens, on a compris tout de suite, je sais pas pourquoi, même étant en famille assez pauvre, qu'il fallait réussir, comme disent les Français. Mais réussir financièrement, dans la vie active, etc. Et je ne sais pas mais comment on a fait, mais on a tous réussi comme ça. Parce que, on a eu des. Enfin, moi, maintenant, je suis en retraite, on a eu des belles situations, etc. Et on a continué à aider les autres. On n'a pas le. On reste des gens très simples.
Alors, merci pour ce livre, hein, qui est vraiment un journal de bord, donc sur 5 ans, qui fait quand même 280 pages. Donc, il y a de quoi lire. ça se lit bien, enfin bien, je veux dire que c'est très accessible, bien après, oui. Voilà, il y a toutes les difficultés qui sont dedans, mais il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, beaucoup de matière à réfléchir aussi. Donc, je rappelle le titre, « Les Sentinelles, chronique de la fraternité à Vintimille » de Teresa Maffeis et Aurélie Selvi. C'est aux éditions Max Milo.
Merci.
Voilà.
Teresa Maffeis, sera traduit en italien. Oui. Merci beaucoup.
Oui. En italien.
Il sera traduit, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont dedans, enfin qui sont des témoins et qui sont en Italie. Et donc, on va faire en sorte qu'il y ait une traduction en italien, pour au moins un hommage aussi à tous ces solidaires qui sont cités dans le livre. Voilà. Oui. Merci à vous, en tout cas.
Merci beaucoup et bonne continuation, oui. Si je peux dire.
Au revoir. C'est le mot de la fin. Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.